Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur la radio mondiale pour évoquer nos sujets du jour. Et nous commencerons par le football au JO, aux Jeux Olympiques. Et ça se précise avec les groupes, même incomplets, mais tirés au sort hier soir. Et ce ne sera pas simple pour les filles d'Hervé Renard. Les filles françaises, bien sûr, un sélectionneur sur le départ, ce qui est confirmé. Ça paraît moins compliqué a priori pour les garçons de Thierry Henry, quels que soient les garçons d'ailleurs dans son groupe. Et nous évoquerons aussi, bien sûr, les sélections africaines qui pourraient ou qui doivent participer à la compétition. Le Sénégal à l'heure du renouveau dans les rangs de sa sélection des petits nouveaux, mais dans le sillage du même sélectionneur, Aliou Cissé reste à la tête des Lions de la Teranga pour redonner de l'élan aux champions d'Afrique de 2022. La sélection du Brésil en pleine reconstruction. Deux matchs pour se tester, deux beaux adversaires, Angleterre et Espagne, pour jauger de ses forces. À quelques mois de la Copa América, Dorival Junior, le nouveau sélectionneur, a bien du boulot, n'est-ce pas Dominique Baïf, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
C'est pas gagné.
C'est pas gagné, c'est loin d'être gagné, mais on va en discuter comme il faut.
Oui, il y a plein de choses à dire sur cette sélection du Brésil. Avec nous aussi, Yoro Mangara, bonjour Yoro.
Bonjour Annie, bonjour. Bonjour à tous.
Et puis Bruno Constant est là. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
David Findel m'a aidé à préparer l'émission et Mathieu Degueld est à la réalisation. Et puis avant de lancer l'émission, un bon et joyeux anniversaire à notre ami à tous, Pierre Guérin, qui fête aujourd'hui ce jour particulier et qui souffle une bougie de plus. Bon, le printemps c'était hier, mais avec Pierre Guérin, le printemps c'est tous les jours. Radio Foot, c'est parti.
Vous êtes sportif.
Oui, bien sûr. À différentes entreprises.
Montrez-moi ce que vous savez faire.
C'est quand même incroyable ce que fait ce jeune homme avec ses pierres. Oh là 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 là, regardez ça, c'est pas olympique ça.
Un compte à rebours de plus en plus stressant pour les organisateurs comme pour les futurs participants. Dans 127 jours sera rallumée la flamme olympique et cette fois ce sera à Paris. Et parmi les 43 disciplines de cette 33e Olympiade, des sports collectifs aussi, comme le basket, le hand ou le volley, et puis le football. Il est là depuis 1900 d'ailleurs le football, c'est-à-dire depuis la deuxième Olympiade moderne, seulement depuis 1996 pour ce qui est de la version féminine de ce sport. Et j'aurais une première question, elle est pour vous Bruno Constant, vous qui connaissez si bien le pays qui a... Elle n'est pas inventée peut-être seulement, mais codifiée. Le football lui revendique d'avoir inventé, bien sûr, on le sait. Est-ce que c'est un tournoi passionnant, le football au JO ?
Absolument pas.
Absolument merci. Pas.
La France a gagné en 1984. Vous vous souvenez du match, la finale ? Contre qui a marqué ? Non, on ne se souvient pas. Cette année-là, il y a eu l'Euro. La France a gagné l'Euro 84.
Non, mais vous parlez que de la France, mais par exemple, le Brésil a gagné
mais
deux fois.
Mais on pourrait prendre n'importe quelle
le
finale,
Cameroun,
en fait.
Enfin bon.
Les finales ne restent pas dans les annales. Un football, en plus, au JO... La discipline du football, c'est la seule discipline où ce n'est pas les titulaires de l'équipe qui viennent, c'est les moins de 23 ans. Donc, ce n'est même pas une équipe de titulaires, quelque part. On fait venir les jeunes. Pour moi, ça n'a rien à voir. Les JO, c'est l'athlétisme, c'est l'escrime, c'est le judo. C'est ceux qui travaillent toute leur vie pour une grande compétition tous les 4 ans, parce qu'ils ont la médaille olympique. C'est monstrueux pour les judokas, pour les athlètes qui n'ont pas les mêmes sponsors, qui n'ont pas le même impact médiatique que les footballeurs. Les footballeurs, c'est la Coupe du Monde, c'est l'Euro, c'est la Copa América, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour moi, on n'a rien à faire. Le football n'a rien à faire aux JO. Et d'ailleurs, on le voit dans la préparation de ces JO. On ne sait pas quel joueur le sélectionneur va prendre parce qu'il est plus de 23 ans.
Il
mais
le
les clubs
n'ont
pas l'obligation de les libérer. Il n'y a rien qui va dans cette préparation. On prépare une compétition, on sent savoir avec qui, quel groupe.
Je crois que ça dépend aussi de quel continent, dans quel continent on vit. En Afrique, c'est super important, les Jeux Olympiques. Parce que nos pays qui y vont souvent pour remporter cette compétition parce qu'on n'a pas encore les moyens de gagner la Coupe du Monde. Donc, du coup, les Jeux Olympiques, c'est comme si on gagnait notre Coupe du Monde en nous parce que c'est des U23 qui y vont le plus souvent. avec trois joueurs qui ont plus de...
Donc des moins de 23 ans.
Ouais, moins de 23 ans.
Et la preuve, c'est qu'on a rajouté les trois plus de 23 ans pour
exactement.
Donner un peu plus d'intérêt et attirer des stars. Donc c'est ça, en fait, le point.
Les deux nations qui ont remporté cette compétition, à savoir le Nigeria et le Cameroun, regardez l'accueil qu'ils ont eu après. Et moi, je vous dis...
Mais ça, bien sûr, le
justement,
vainqueur.
Justement, Yoro, vous anticipez un petit peu, mais on va les écouter parce que justement, c'était en l'an 2000. On s'en souvient tellement bien. Le Cameroun l'avait emporté et c'était contre l'Espagne de Xavi. Donc, c'était un grand moment. Et écoutons, remettons-nous dans cette ambiance. Il y avait le Nigeria donc, qui crée la surprise en 1996 et cette confirmation, on va dire, de la part des Africains en l'an 2000, c'était à Sydney.
Les nations africaines, c'est une petite coupe du monde. Nous n'avons pas l'occasion de rêver de gagner les coupes du monde. Alors une médaille d'or.
Les Camerounais qui ont beaucoup à jouer ici par Nabi. Frappe de Nabi. Cameroun qui se qualifie pour les demi-finales olympiques et qui élimine le Brésil. Il s'élance, c'est parti et ça y est. Le Cameroun est champion olympique de football grâce à ce tir au but de Pierre Ouamelen.
Vous n'avez pas l'impression que c'est vous, que c'est le Cameroun qui se retrouve aussi grand. Parce qu'être champion olympique, ça c'est des moments vraiment irremplaçables dans la vie de quelqu'un.
On a entendu Samuel Eto'o, on a entendu aussi Jean-François Pérez, notre confrère, qui alors qu'on avait commenté cette finale, et puis Jean-Paul Akono, l'entraîneur de ces Camerounais, de ces Lions Indomptables. Et c'est vrai que pour des compétitions très relevées, finalement, pour le continent africain, c'est peut-être à sa mesure, je dirais, cette compétition, c'est-à-dire les jeunes, peu importe qu'ils soient connus ou pas, mais en tout cas des gens qui veulent marquer l'histoire. Et en plus, le Cameroun, cette année-là, ils avaient aussi Patrick Mboma.
C'est la suite logique dans leur carrière, parce que n'oubliez pas que ces jeunes sont souvent champions du monde en U20, en U17.
Donc, chez les jeunes.
Mmh. Quand ils vont en U23, ils veulent gagner ce trophée parce qu'ils savent que gagner la Coupe du Monde, la grande, c'est impossible. Moi, je me souviens à Atlanta en 1996, quand les Super Eagles se jouaient avec le décalage horaire. En Afrique, c'était quelque chose comme 2h du matin et on veillait pour regarder ces matchs. Voir le Nigeria battre le Brésil de Bebeto, etc., c'était fabuleux. Donc, pour nous, les Africains, le Mali vous le dira, ils vont jouer à fond ces JO parce que ça nous permet de gagner une médaille d'or, parce qu'on ne peut pas gagner la Grande Coupe du Monde pour l'instant.
Et pour le continent sud-américain, Dominique Baïf, est-ce que ça serait de l'ordre du continent africain ? Non.
Il y a quand même cette importance. Les joueurs y attachent vraiment. On l'a vu notamment sur les JO de 2016 à Rio.
Oui, alors peut-être que le côté...
Parce
alors
que c'était à Rio.
Nous,
oui,
voilà.
Si aussi,
on en,
mais
si on en parle
première,
un peu plus cette fois, reconnaissons-le, c'est aussi parce que la France organise les JO. Et que du coup, le tournoi, on leur a mis un peu comme mission, évidemment, de remporter l'or. Et c'était ça, le Brésil. Mais surtout le Brésil, dans son palmarès énorme dans le monde du football, on en reparlera tout à l'heure, mais il n'avait pas la médaille d'or.
Exactement. Et c'est pour ça que le fait de le remporter à domicile pour
avec
la première
Neymar
fois de son histoire,
avec
Neymar comme capitaine, on l'a vu après la séance de tir au but, il a fondu en larmes là, avec la pression, alors que c'était un joueur qui était déjà habitué à supporter cette pression en club et avec la sélection. Et le voir dans cet état avec la sélection des U23, ça montrait aussi l'importance que pouvaient attacher ces joueurs, même s'il y avait une jeune génération. Mais ça permet aussi à ces jeunes joueurs de pouvoir se montrer à un grand public, à des clubs européens, donc de briller aussi et de s'acheter peut-être un avenir en Europe lors de cette compétition-là.
Et finalement, on n'a pas l'impression qu'ils se fassent beaucoup prier, les plus âgés, pour disputer la compétition. Le problème, c'est leur calendrier ou celui de leur club. Mais en 1984, lorsque la France avait gagné, il y avait eu un Euro et il y avait eu des JO. Donc le problème était à peu près même. Mais peut-être aussi que ça permet par contre au football féminin de se mettre en valeur. Parce que là, ce qui est bizarre, c'est que les règles ne sont pas du tout les mêmes. Autant pour la sélection masculine, on a des hommes parfois entre guillemets inconnus, mais ça veut dire dans des sélections effectivement de jeunes. Mais les filles, on va avoir celles qui ont disputé la Coupe du Monde l'an dernier, Bruno.
Mais c'est pour ça, c'est le sport, enfin le football féminin et le football masculin, c'est presque deux sports différents, deux disciplines un peu différentes, parce que le foot féminin part de très très
au
loin.
JO.
Je parle vraiment dans le... Il y a un retard accumulé par rapport aux hommes parce qu'il n'y a pas eu de moyens dans le football féminin et qu'on y met seulement depuis 10, 15, 20 ans dans certains pays. Mais le football féminin a souffert d'une sous-médiatisation de sa discipline. Donc le fait qu'il soit un petit peu comme les judokas ou comme les athlètes d'escrime. Donc le fait que le football féminin soit aidé par les Jeux Olympiques, par l'exposition des Jeux Olympiques, moi je trouve ça tout à fait naturel. Ça peut aider le football féminin justement. Et ce que j'aimais bien d'ailleurs dans les JO, c'est qu'on regardait davantage le football féminin foot que le football masculin homme. Honnêtement, vous regardez les stades dans les matchs des JO de football masculin, les stades, la plupart, sont vides ou très clairsemés. Pour les
on
féminines,
dit qu'en France, là, les billets se sont facilement vendus.
Parce qu'il y a eu l'effet Mbappé. Et je pense qu'il y a eu dans la campagne, et je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie dans ce qui s'est passé, c'est que l'annonce d'Mbappé, ça fait déjà plusieurs mois que c'est annoncé, qu'il pourrait les disputer, qu'il voulait les disputer, etc. Non, etc.
La France ne peut pas jouer tous les matchs hommes et femmes, là.
Mais je peux vous dire que j'ai plein d'amis qui ont pris des places parce qu'ils pensaient qu'Mbappé serait avec l'équipe masculine. Et juste pour ça, parce que c'était un moyen d'emmener leurs enfants dans un match où il y aurait Mbappé. Et d'ailleurs, les places aussi du football sont moins chères, par exemple, que le tir à l'arc ou l'escrime. Voire deux fois, trois fois, quatre fois moins cher. Donc, c'est aussi une possibilité, enfin une capacité pour aller voir les matchs de foot avec peut-être Mbappé quand il était annoncé.
Et juste pour revenir sur l'importance aussi de cette compétition sur les pays sud-américains, c'est Thierry Henry qui l'a déclaré récemment, qu'il était content de ne pas tomber dans le groupe des Argentins et d'autres pays sud-américains, parce que pour eux, cette compétition-là a beaucoup plus d'importance que peuvent l'avoir les joueurs français. Et donc, c'est Thierry Henry aussi qui nous le disait.
On va l'entendre. Mais chez les filles, par contre, moi, je me souviens, quand j'étais au Brésil, le fait que Marta et les Brésiliennes brillent dans le football olympique a beaucoup aidé aussi à leur image de marque et au respect du football féminin au Brésil.
Et dans le développement du football féminin, on sait très bien que, comme en Europe, hein, ça a mis beaucoup de temps pour que ce soit professionnalisé. On sait qu'au Brésil, c'est la CBF qui chapeaute un peu tout ça. Et là, le Brésil est candidat pour accueillir le Mondial 2027. Mmh. Et il y a le ministre des Sports qui est engagé à développer aussi le football féminin en essayant de le professionnaliser en vue de cette échéance-là. Donc ça montre aussi l'importance que peuvent avoir les JO et les équipes féminines qui représentent leur pays.
En tout cas, on ne sait pas encore qui sera dans les équipes africaines qui peuvent encore se qualifier. Il y en a déjà. Alors, pour ce qui est des hommes, on a le Maroc, l'Égypte et le Mali. Mais par exemple, pour les filles, on attend encore. Hein, Euro, ça sera entre... on suppute que ça sera le Nigeria et l'Afrique du Sud,
hein, exactement.
En gros, c'est les deux favorites. Mais les matchs restent à disputer. En tout cas, hier soir, qui a procédé au tirage au sort? Il y avait Marie-Josée Perret qui participait à la cérémonie, mais il y avait aussi Didier Drogba, qui fut porte-drapeau de la Côte d'Ivoire au JO en 2012, c'était à Londres, et qui a donc particulièrement regardé, lui, les groupes hier, la formation des groupes après le tirage au sort. Didier Drogba, qui était au micro de Antoine Grenier.
C'est tout d'abord la fierté de représenter son pays, et ensuite il y a la fierté pour ceux qui remportent d'avoir la médaille olympique. En termes de visibilité, il y a, je crois, d'abord la Coupe du Monde. Et en tout cas, il y a une vraie compétition entre les deux. Et ça peut se comprendre parce qu'on vit à chaque fois des spectacles de qualité. Plus jeune, j'étais vraiment intéressé par tous ces sports d'athlétisme. À l'école, j'étais assez performant dans tous ces sports, que ce soit le saut en longueur, saut en hauteur, triple saut, lancer de javelot. En fait, tous les sports olympiques m'intéressaient. Moi, j'étais moins bon en tout ce qui était course, marathon et tout ça. Mais c'est pour vous dire ma passion, non seulement pour les Jeux, mais pour le sport en général. Donc j'ai eu la chance de suivre quelques Olympiades à la télé, et dont Barcelone, celle aux États-Unis, je crois que c'était Atlanta, en Australie aussi. Et ça a été de grands moments à chaque fois avec des performances incroyables. Par exemple, un Carl Lewis qui remporte son titre sur le 100 mètres, un Usain Bolt qui détruit le 100 mètres et le 200, Michael Johnson. Je peux vous citer tous les athlètes, vraiment, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc content de pouvoir enfin vivre des Jeux en présentiel.
Didier Drogba, chez lui à Londres, sûrement en 2012, mais qui est un passionné au-delà du foot, de sport, évidemment.
Je peux rebondir sur ce qu'il a dit, et c'est exactement pour ça que pour moi le foot ne doit pas être là. C'est quand il fait référence aux souvenirs d'enfance, quand à l'école on fait de l'athlétisme, on fait du lancer de javelot, ce genre de choses. Et je me souviens, quand on est enfant, on fait de l'athlétisme, on court le 100 mètres, entre guillemets, on se prend pour les Jeux Olympiques, on veut gagner la médaille. Au foot, on ne dit jamais ça. Au foot, on dit on veut gagner la Coupe du Monde. Le rêve, c'est
la Coupe du Monde.
Et c'est pour ça que je dis, pour moi, le foot masculin n'a pas sa place. Mais effectivement,
il est là depuis 1900. C'est ça qui est
fou. Ça m'a étonné quand vous l'avez dit, effectivement.
Hein, j'ai cherché justement en me disant, mais depuis quand? Alors, il y a eu une Olympiade où ils n'étaient pas là, je crois que c'était 1932, si ma mémoire est bonne. Mais sinon, il y a toujours eu ça. Mais c'est vrai qu'on oublie un peu. Alors, le tirage au sort, en tout cas, a fait que Euro, les deux équipes africaines potentielles, qu'on ne connaît donc pas encore à cette heure, tombent dans les groupes B et C. Avec, pour ce qui est de l'une des deux équipes, les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie. Et pour ce qui est de l'autre équipe, ça sera Espagne, Japon et Brésil. C'est un beau cadeau, là, pour le continent africain.
Oui, les Super Falcons, ce qu'elles ont prouvé lors de la dernière Coupe du Monde, c'est une belle équipe quand même. C'est une belle équipe qui peut aller très loin. On a vu cette équipe mettre en mal les Anglaises lors de la dernière Coupe du Monde. Et il y a du talent dans cette équipe. Après, il faudra confirmer ce qu'elles ont montré lors de la dernière Coupe du Monde. C'est juste un an, mais en un an, on a vu la meilleure buteur de cette équipe qui joue presque plus au FC Barcelone. Ça craint un petit peu.
Mm-hmm. Ouais.
Elle n'est même plus cette année Ballon d'Or africain, alors qu'elle l'a pris 3 fois d'affilée. C'est Achaola.
Dominique, on a 12 équipes hein, dans le tournoi féminin, alors qu'on en a 16 chez les hommes. 12 équipes réparties en 3 poules. Et finalement, on se dit, c'est 4 équipes à chaque fois. Du coup, c'est quand même le meilleur de ce que fait le football mondial.
Oui, effectivement. Mais comme Bruno en parlait, ça permet aussi de, bah, pas professionnaliser, mais d'améliorer aussi ce football-là en regroupant les meilleures sélections qui peuvent s'affronter soit en Coupe du Monde et désormais avec les Jeux Olympiques. Donc ça leur permet aussi de pouvoir se confronter entre elles au niveau que l'on peut avoir, notamment l'équipe des États-Unis, l'équipe de France qui, là, dernièrement, a fait un bon parcours en Ligue des Nations. Et les équipes sud-américaines aussi, avec l'équipe du Brésil qui, voilà, essaye de retrouver un peu son statut d'avant, comme l'équipe masculine, et qui peut profiter de ces compétitions pour pouvoir se montrer face à de belles sélections.
Les Françaises ont atterri dans le groupe A, hein, chez les hommes comme chez les femmes, comme c'est le pays organisateur, comme c'est le pays qui accueille. Le rêve en or est-il remis en question par ce tirage au sort? Eh bien, on va écouter d'abord l'appréciation du sélectionneur Hervé Renard au micro d'Antoine Grenier.
Sur le papier, c'est toujours plus facile de donner des notes, les favoris, les non-favoris, mais ça se passe rarement comme on a décidé avant, à quelques rares exceptions près. Donc on a déjà l'équipe championne olympique en titre, ça faut pas l'oublier, le Canada, la Colombie qui a réussi une magnifique Coupe du Monde, en battant l'Allemagne notamment. Une équipe très athlétique, comme le devient le football féminin mondial. Et puis la Nouvelle-Zélande qui avait réussi à battre en match d'ouverture de la Coupe du Monde la Norvège. Voilà, à respecter. Mais bien sûr, quand on a des ambitions et qui plus est à domicile, eh ben, il faut affronter les meilleurs pour aller le plus loin possible.
Dans un autre moment, Hervé Renard, quand il a évoqué ce tirage au sort, il a dit, là, il dit, il faudra aller le plus loin possible. Sa mission au départ, évidemment, dans l'emballement de sa nomination, c'était décrocher l'or. Maintenant, il a parlé de médaille, mais il n'a pas spécifié or. Est-ce qu'il est devenu plus réaliste à la lumière de la finale de la Ligue des Nations?
Pas forcément la finale Ligue
des
Nations.
Finale Espagne-France, où la France a perdu 2-0, mais on a l'impression
Il y avait un monde d'écart.
Voilà, un gouffre en moins.
Mais moi, je pense que c'est même allé jusqu'à la Coupe du Monde, qui s'est déroulée, où la France était très très loin de ce niveau-là. On a vu qu'il y a un gouffre en fait entre l'équipe de France et les grandes nations de mondiale.
Elle s'est arrêtée en quart de finale, comme d'habitude. En France en 2019.
Et malgré l'arrivée d'Hervé Renard, comme quoi il n'y a pas que le sélectionneur qui est important, aussi le talent des joueuses. Et là, je comprends. Après, on ne sait pas ce que ça peut... Le fait de jouer à domicile, les Jeux Olympiques, on sait que ça porte les athlètes du pays généralement. On dit souvent ça en athlétisme ou dans les sports un peu moins médiatisés. Est-ce que ça peut porter l'équipe de France féminine? Pourquoi pas, on va voir. Mais le fait d'avoir un groupe très abordable d'entrée... Ça va compliquer la tâche à partir des quarts de finale. Parce que
vous le trouvez abordable, vous, avec le Canada qui...
Il avait gagné les JO.
Qui est tenant du titre.
Non, mais ça aurait pu être pire.
La Nouvelle-Zélande, qui vient d'organiser la dernière Coupe du Monde et qui avait quand même fait une bonne impression.
Vous évitez l'Allemagne, vous évitez l'Australie, le Brésil et le Japon. Pour moi, c'est un très, très bon tirage.
Mais la Colombie, elle fait finale de la Copa il y a deux ans.
Ils ont joué, on en parlait, il y a quelques mois, c'était 5 ou 6-0. Il y avait un monde d'écart aussi entre eux. Il y a les niveaux disparates.
C'est 5-2, si je ne me trompe pas.
5-2.
Il n'y avait pas photo.
Bon, donc je vous sens
Ça va passer. Enfin, le Canada, c'est le Canada qui sera...
Oui, voilà.
Ouais. Je ne sais pas. Il y a le Canada. Après, je crois que depuis que Hervé Renard est là, moi, je ne vois pas une évolution dans cette équipe. Moi, je crois qu'il a été amené ici pour pousser le football féminin, mais également prendre toute la lumière et éviter qu'il y ait cette pression négative sur les filles parce que les JO vont se jouer à domicile. Mais malheureusement, on les a vus tétaniser face à l'Espagne il y a moins d'un mois. Donc, ça va être très compliqué de gagner la médaille d'or pour ces joueuses françaises.
Oui. Dominique, en plus, peut-être, est-ce que le fait, hier, ça a été confirmé par le président de la Fédération française de football, que Hervé Renard n'était pas désireux de poursuivre? Bon, je crois que depuis la CAN, on avait compris que ce n'était pas forcément sa plus grande priorité et que ce n'était pas là qu'il avait l'air de s'épanouir. Donc, il partira après les JO. Est-ce que c'est à double tranchant? Parce que, par exemple, on dit que pour Jürgen Klopp ou pour Xavi, depuis qu'ils ont annoncé, voire Tuchel, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils partaient à leur effectif, tout d'un coup, c'est
ça libère, ça libère.
Ça les libère. Est-ce que, selon vous, ça peut justement libérer les filles?
En sélection, c'est plus compliqué à transcrire sur le terrain.
Elles ne seront pas forcément motivées pour offrir à Hervé Renard
bien
un
sûr.
Titre.
Maintenant, l'objectif d'Hervé Renard, c'est aussi de permettre à ces joueuses-là de se libérer de cette pression médiatique qu'on a sur l'équipe de France pour les Jeux Olympiques et d'avoir cette opportunité de réaliser un très beau parcours, d'emmener avec elles le pays, j'ai envie de dire, et cette foule qu'on a senti durant la Coupe du Monde, mais qui s'était vite essoufflé. Et là, on a peut-être l'occasion aujourd'hui de pouvoir retrouver cet élan-là. Et malgré le départ, voilà, il a été très clair avec elle. Il leur a dit, enfin, avec la fédération, en indiquant qu'il ne devrait pas rester. C'est aussi peut-être un beau cadeau si elles ont adhéré à son projet depuis le début, de mettre tous les moyens en œuvre pour aller au bout de la compétition.
On savait qu'il n'allait pas rester. À partir du moment où il a pris l'équipe,
bien sûr.
Déjà, quand il prend l'équipe, il est en Arabie Saoudite, il est en poste. Il quitte son poste pour aller entraîner cette équipe parce qu'elles ont mis dehors leur sélectionneuse. Mais c'est pour ça qu'il vient uniquement. Il vient parce qu'il y a un coup à faire. Qu'il y a un coup à faire avec la Coupe du Monde.
Une surprise.
Et ensuite les JO. Mais il venait pour une mission qui était précise. Il y avait peu d'espoir. Hervé Renard, qui peut avoir des contrats mais mirobolants en Arabie Saoudite, où il retournera sans doute, ou une autre nation, une autre sélection pour une éventuelle Coupe du Monde 2026.
Bah, il y a Roberto Mancini là-bas.
C'était évident qu'Hervé Renard, il va regarder la Coupe du Monde. Il a envie d'être sélectionneur à la Coupe du Monde 2026, c'est sûr.
Il n'allait
pas rester éternellement.
Oui, c'était aussi pour lui l'opportunité de revenir en France aussi, de se montrer avec une équipe, la sélection française, de pouvoir montrer qu'il avait des qualités. Peut-être qu'en France, on l'a peut-être un peu brocardé depuis son départ. Il est étiqueté un petit peu entraîneur africain ou maintenant qui était en Arabie Saoudite. Et c'était l'occasion aussi pour lui de se montrer sur cette sélection française.
C'est un
française.
Homme de coup, mais comme Thierry Henry aussi un coup. Thierry Henry, il était cherché pour un coup, bien pour sûr. Le coup, les Jeux Olympiques.
Je pense que Thierry Henry, ce n'est pas la même démarche. Il a été champion du monde.
Il a apporté un nom par rapport aux Jeux Olympiques.
Oui, mais
ce n'est pas s'inscrire dans la durée. Je pense que, Thierry Henry ou Hervé Renard, pour eux, il ne s'inscrit pas dans la durée.
Mais lui, c'est plus dans sa carrière, Thierry Henry, de sa progression de sa carrière.
Il l'a relancé en tant qu'entraîneur.
De la lancer.
Yoro.
En tout cas, moi, je crois que c'est un peu différent. Klopp, il dit qu'il est fatigué, il est usé, il part, et que Klopp, lui, ne vaut pas et n'est pas en train de chercher un nouveau club comme Xavi.
Pas comparable. Klopp à Liverpool, il a fait 8 ans, il a tout gagné, c'est un des
meilleurs entraîneurs du monde. Il est avec les Bleus, il cherche un poste en Côte d'Ivoire, il a postulé pour l'Égypte, on a pris Ossam Hassan, il est en train de chercher à aller ailleurs, alors que Klopp et Xavi, eux, ne cherchent pas.
Logique qu'il aspire à plus grand.
C'est exactement
et une
ça.
Nation qui va jouer la Coupe d'Afrique des Nations.
On a l'impression qu'il est un peu déçu par sa mission avec les femmes. Non,
je pense qu'il a dû retomber un peu sur terre par rapport au niveau des joueuses.
Après la Coupe du Monde,
Très honnêtement, est-ce qu'il s'y en intéressait beaucoup au football féminin avant d'être sélectionneur de l'équipe féminine?
C'est du football avant tout.
Oui, mais je ne crois pas.
Moi, je pense que si vous ne regardez pas les matchs attentivement, vous ne voyez pas le niveau réel du football féminin en France.
En tout cas, voilà pour ce qui est des filles. Maintenant, côté garçons. Alors là, on a 4 groupes, 4 poules et Euro pour l'instant. Le Maroc se retrouve avec l'Argentine, l'Ukraine et puis donc un hypothétique club qu'on ne connaît pas. Il se peut aussi qu'il y ait la Guinée.
La Guinée, oui.
Qui soit dans le groupe de la France, on ne sait pas encore, puisqu'il leur reste à se qualifier. On a une autre équipe inconnue dans le groupe de l'Égypte, avec la République dominicaine et l'Espagne. Et puis dans le groupe D, on a le Mali, Israël et Paraguay, puis encore une autre inconnue.
Le Mali, c'est une très belle équipe. Elle a éliminé le Sénégal après avoir fait une remontada extraordinaire, parce qu'à l'aller, ils perdaient 3-1. Au retour, ils prennent Kamori Doumbouya, Nené Dorjoles, qui ont été brillants lors de la dernière Coupe d'Afrique. Ils battent le Sénégal 3-0 pour se qualifier au JO. C'est une très belle équipe avec des joueurs très jeunes et qui sont très bons.
Est-ce qu'on a aussi le sentiment que cette équipe du Mali, elle a bien envie? Alors, vous parliez de l'importance que ça peut avoir pour une équipe africaine, ce plateau des JO. Est-ce que vous pensez que le Mali, avec la déception de la dernière CAN et tout, les JO peuvent être une compensation?
Et surtout, avec cette situation politique où les gens, ils croient à un nouveau Mali, parce que...
Oui, d'ailleurs, on ne nous écoute pas, là, en ce moment-là.
Parce que pour eux, Le Mali doit montrer qu'il est grand, parce que dans leur langue, en bambara, ils disent Maliba, c'est-à-dire notre grand Mali. Et l'idée de ce président qui est là-bas, c'est de montrer aux autres pays qu'ils ont tort d'avoir, de regarder de haut cette équipe et cette nation. Et je crois qu'ils auront envie d'aller au bout pour ces Jeux Olympiques. Après, il faudra voir ce qu'ils feront dans ce tournoi.
Je n'ai pas l'impression qu'on les regarde de haut à la CAN quand on voit arriver l'équipe d'Eric Schell. Mais bon, en tout cas, il y a aussi évidemment donc un groupe pour la France. C'est le groupe A qui se retrouve avec les États-Unis, hein, donc hypothétique Guinée ou autre, et puis la Nouvelle-Zélande. Et là, on va écouter Thierry Henry, donc le sélectionneur, toujours au micro d'Antoine Grenier, qui était hier, qui couvrait la cérémonie avec Farid Achach. Est-ce que c'est abordable pour les Bleus ? Peut-être, mais... Après, on va en parler. On ne sait pas de qui est composée l'équipe et ça, c'est l'autre inconnu.
On peut commencer à travailler, voir un peu plus clair. Bien sûr, il manque une équipe dans cette poule. On verra bien qui va rentrer dans la poule. Mais voilà, on va devoir étudier, regarder ce qu'il y a à faire. Le chemin qu'il y aura à prendre après, ça sera pour plus tard. Si on sort, on sort bien sûr des poules. Mais enfin, on peut se tourner sur quelque chose d'un peu plus concret. Ça, c'est clair. L'engouement, quand vous voyez le monde qu'il y a pour le tirage masculin et le tirage des femmes aussi. Donc, c'est beau à voir. Maintenant, il y a quelque chose à préparer. Si vous regardez sur les dernières compétitions, c'est pas facile d'aller chercher les Sud-Américains. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une compétition qui leur tient à cœur, à nous aussi sur celle-là. Mais il y aura un travail à effectuer, à visualiser. Comme j'ai dit, j'ai pas peur de le dire, on a visualisé l'or. On visualise l'or. Ça n'a pas été évident. Et quand vous savez très bien que sur les dernières compétitions, je le répète encore, les Sud-Américains, ils ont un petit truc en plus.
Il en parle de l'or, lui, Thierry Henry, et évidemment qu'il en rêve. Bon, des Sud-Américains, il n'en a pas dans son groupe, Dominique.
Oui, mais
ça ne veut pas dire qu'il n'en aura pas sur sa route ensuite. Ce groupe de la France, on connaît à peu près son niveau quand même.
Bien sûr, là, il est tout à fait abordable. Et si cette équipe de France, aujourd'hui, arrive à trouver un football cohérent, elle doit passer ce premier tour sans encombre. Quoi. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a l'ambition d'aller au bout, comme l'a dit Thierry Henry. Et donc, il faut aussi marquer les esprits dès le premier tour avec des matchs, on va dire, à sa portée et surtout maîtrisés de qualité.
Est-ce que l'arrivée de Thierry Henry a un peu, alors non seulement donné effectivement du relief à cette équipe, mais aussi secoué cette équipe olympique, selon vous, Bruno?
Alors, secouer l'équipe olympique, je ne sais pas, parce qu'elle est toute neuve et on ne sait même pas qui va jouer.
Oui, enfin, on a quand même un peu une trame. Voilà.
Même si une base, mais intégrer, par exemple, 3-4 nouveaux joueurs.
Quand il est arrivé, il y a eu des scores spectaculaires.
Non, mais oui, contre Chypre, par exemple. Mais il y a eu des matchs plus compliqués quand le niveau s'est élevé. On a vu un petit peu comme les féminines, dès que le niveau s'élève, on voit que c'est un peu plus compliqué. Il y a un vrai souci presque mental dans cette équipe espoir, entre guillemets, parce qu'elle ne brille pas dans les tournois, les Euros ou les Coupes du Monde. Et l'arrivée de Thierry Henry devait justement dissiper un peu ça. Un petit peu comme la manière d'Hervé Renard, de prendre un peu plus la lumière. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'équipe espoir depuis que Thierry Henry est là. Ça tourne beaucoup autour de lui parce que c'est une aussi, personnalité importante, un grand joueur, grande carrière. Et puis son discours aussi, hyper intéressant. Donc il a amené la lumière dessus. À lui de trouver la bonne formule pour rendre cette équipe à la fois passionnante à regarder, mais aussi trouver un équilibre. Parce qu'encore une fois, on parle du groupe, on parle de lui, sa préparation. Il ne sait même pas avec qui il va partir. Et ça peut aller même à des joueurs comme Saliba, qui n'est pas en équipe espoir, qui est plutôt avec Léa, mais qui, s'il n'est pas pris avec Léa, est-ce qu'il va venir jouer avec l'équipe olympique ?
Est-ce qu'Arsenal va accepter ?
Est-ce qu'Arsenal va le libérer aussi ? Enfin, il y a tellement de questions qui se posent sur cette composition. À un moment donné, on a presque arrêté les plus de 23 ans, qu'on se concentre vraiment sur une équipe. Mais c'est compliqué, quoi.
Alejandro Valente, avec qui on parlait hier, on avait la chance de le revoir, puisque quand même, il vient de temps à autre du côté de RFI, nous disait qu'en Espagne, les clubs, par loi, sont obligés de libérer les joueurs pour les JO. Mais des joueurs espagnols.
Un contrat avec la fédération
des
espagnole.
Des joueurs espagnols, bien sûr. Ça veut dire que c'est là où la guéguerre du Real...
C'est là où il y a de l'hypocrisie, parce que le Real annonce que la France ne peut pas retenir ses joueurs français. Par contre, elle va libérer ses joueurs pour l'Espagne. Donc là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas dans ce système-là.
Tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'équipe de France qui avait remporté la médaille d'or en 1984. Henri Michel était sur le banc. Mais est-ce que vous sauriez citer des joueurs de cette équipe de 1984?
Moi, je me souviens Daniel Zvereb.
Christophe Galtier, il n'est pas dans cette équipe.
Je ne sais pas s'il y a Jean-Christophe Touvenel.
Galtier, il était, je crois.
Il me semble qu'il Touvenel.
Non,
non,
pas Galtier.
Non, mais c'était...
Ah, vous avez raison, Zvereb, mais parce qu'en plus, il a été le meilleur buteur du tournoi pour les Français. Donc, oui.
Touvenel de Bordeaux, je crois qu'il y est.
Bah, non.
En plus, il y a une photo.
Ah oui, c'est Jean-Christophe Touvenel.
Il y a une photo qui est passée. Je ne sais même pas... Qui est-ce qui est encore
Il fallait reconnaître en plus parce que oui, ils avaient plus de cheveux, ils étaient plus jeunes.
Bruno Bellone, il est avec Léa.
Jean-Luc Sassus.
Yvon Leroux, non.
Yannick Topira.
Non plus, non. Non, parce qu'en plus, la France venait d'être championne d'Europe en 84, on le sait. Non, mais je dirais notamment, il y avait William Ayache du FC Nantes, Michel Bibard aussi. Dans les buts, Albert Rust, ça quand même, on se souvient de son nom. Et il y avait Guy Lacombe, qui depuis était sélectionneur, n'est-ce pas ? Jean-Philippe Rohr. Jean-Louis Zanon avec Daniel Zouhereb à l'avant. Après, on avait Patrick Cubaine, Patrice Garande. Et donc Didier Sénac aussi. Voilà, François Brisson, Philippe
Sénac, l'ancien médecin.
Et c'est vrai qu'on se souvient de cette la photo. On voit la photo avec leur survêtement. Moi, je me souviens du survêtement, parce qu'en plus, je l'avais gamin. Et de la médaille. C'est dont on se souvient de cette équipe.
Bah, ils ont une médaille d'or, en tout cas. Mais pas le sélectionneur, parce qu'on se souvient que Jean-Paul Aconneau nous avait raconté dans Radio Foot, lorsque nous étions à Yaoundé, qu'à l'époque, il n'y avait pas de médaille pour les sélectionneurs. Que pour les joueurs. Donc Henri Michel n'en a pas non plus. Et alors en face, ils avaient gagné quand même en face, face au Brésil. Et le Brésil avait notamment Dunga dans ses rangs. Silvinho aussi, dont on se souvient ici.
C'était des jeunes joueurs à l'époque.
Des jeunes joueurs, mais qui après ont fait carrière. Allez, on continue, on va vers le Sénégal. Euro, ça vous va ?
Ah oui.
And he finds the back of the net and across the country, and all the substitutes run off the bench to celebrate with Kessier. Franck Kessier face à Edouard Mendy. Franck Kessier envoie les siens en quart de finale. Le Sénégal n'a pas réussi à vaincre la malédiction.
Maintenant, sur mon cas personnel, les gens parlent beaucoup de moi, mais moi je suis pas important.
Quelle modestie, Aliou Cissé. Alors, les Lions de la Teranga sont en France et ils joueront au Stade de la Licorne. Deux matchs contre d'autres nations africaines. Demain soir, ce sera face au Gabon et mardi prochain, face au Bénin. Des rencontres amicales un mois et demi après, donc, ce que vous avez entendu, les éléphants qui étaient les futurs vainqueurs et qui ont éliminé au tir au but. Et dès les huitièmes de finale, les Lions de la Teranga, pourtant au parcours sans faute jusqu'à ce soir-là.
Avec du très beau jeu.
Est-ce que les Sénégalais, les joueurs sénégalais, les supporters sénégalais, les Sénégalais dans leur ensemble ont digéré ?
Ils ont digéré parce que le Sénégal est d'abord un pays de sportifs de haut niveau. Et on n'a jamais gagné non plus. On a commencé à gagner en 2002. Après, je crois que nous sommes revenus sur terre parce qu'on perd face à la Côte d'Ivoire qui jouait à domicile et qui va finir par gagner. Et je crois que c'est pour cela.
Ça adoucit un peu la peine, ça ?
Ça adoucit la peine, et je crois que c'est pour cela.
Parce que ça fait à peine deux ans aussi que vous aviez gagné, c'est-à-dire que c'est encore tellement frais dans les mémoires.
C'est frais, et derrière, on gagne toutes les autres compétitions en Afrique, c'est-à-dire on gagne les U17, U20, on gagne le CHAN, on gagne toutes les compètes. Après, on ne peut pas gagner tout le temps, et on a des adversaires en face de nous. Sur ce match qui était bizarre, qu'on dominait à partir de la 4e minute, on marque un but. Après, je ne comprends pas comment on a fait pour descendre le bloc. Mais bon, après, c'est des explications. Par contre, la fédération a pris une très bonne décision de garder Aliou Cissé parce que la prochaine Coupe d'Afrique, c'est dans un an, en 2025. Et je ne crois pas qu'on aurait pu prendre un nouvel entraîneur pour qu'il essaie de recommencer, de tout reconstruire. Il est là depuis 9 ans, qu'on le laisse faire 10 ans. 2025, c'est dans un an.
Il est là jusqu'en 2026, théoriquement. C'est-à-dire aussi la Coupe du Monde. Mais Yoro, justement, on avait la sensation, peut-être fausse, qu'il était un peu là, peut-être, Aliou Cissé. Ça fait 9 ans qu'il est là.
Il est usé, c'est vrai. Mais je crois qu'ils ont coupé la poire en deux. Entre un entraîneur usé, mais qui connaît son groupe, qui connaît les réalités d'un pays, et un entraîneur qui ne connaît pas la réalité d'un pays, qui ne connaît pas le groupe, qui doit mettre sur pied un groupe en 9 ans, et alors que ce n'est pas un club. Vous jouez tous les 3 mois un match, c'est compliqué. Il fallait le laisser terminer.
On va l'entendre alors, ce sélectionneur qui vient de publier une liste pour ces deux prochains matchs avec 31 noms de joueurs. Les cadres sont là, mais il y a aussi des nouveaux car sa liste s'est amplifiée.
Habib Diarra, c'est un garçon que nous suivons depuis pratiquement 3 ans, 4 ans. J'ai toujours essayé de le convaincre. C'est un garçon qui est né à Guédiouaï. L'équipe nationale du Sénégal, c'est chez lui. Et puis, il a énormément de talent. Aujourd'hui, on a vraiment de très, très jeunes joueurs qui sont talentueux. Il faut aller les chercher, il faut les ramener dans cette équipe nationale. Les matchs amicaux, ça sert aussi à pouvoir changer l'équipe. Aujourd'hui, il y a des garçons que je connais dans ce groupe-là. Je chemine avec eux depuis pratiquement 10 ans, 15 ans. Ils n'ont absolument plus rien à me prouver. Mais il y a de nouveaux joueurs aujourd'hui sur cette journée FIFA, parce qu'on ne pourra pas le faire au mois de juin. Au mois de juin, ça va être des compétitions officielles. Mais par contre, aujourd'hui, au mois de mars, on a l'occasion justement de pouvoir ouvrir la tanière et surtout de pouvoir donner du temps de jeu à d'autres joueurs.
Aliou Cissé au micro de Babacar Fall à Dakar. Alors avec ces petits nouveaux, il avait quand même renouvelé déjà son groupe à la dernière CAN Euro. Est-ce que c'est vraiment l'heure du renouveau dans cette équipe ? Dans les esprits au moins un peu une remise à zéro ?
Oui, et ça lui permet aussi, parce que je crois qu'on a quand même un grenier, parce que quand on voit des joueurs comme John Lopi, qui a été extraordinaire à Reims, qui est parti en Espagne, qui n'était pas à la CAN parce qu'il n'avait pas sa place, des joueurs comme Habib Diarra, que je connais bien, je vais le dire d'ailleurs, même vous, vous avez été mangé à Guédiouaï. Mmh. Moi, je suis né à Guédiouaï, dans ce quartier. Son père, on jouait ensemble, il s'appelle Samba Diarra, qui a été international sénégalais, qui jouait dans le golf. Des joueurs comme ça, on en a plein. Sanganté.
Milieu de Strasbourg, lui. Hein.
Oui, oui, mmh. Habib Diarra. Et puis, il y a un tout jeune qui a 15 ans, qui a été extraordinaire lors de la Coupe du Monde des U17. C'est un phénomène, Amara Diouf. Mmh. Il faudra le voir jouer. C'est notre futur. Sadio Mané, il ne faut pas le brider. Il est tout jeune. Il est à l'Académie Génération Foot. Peut-être qu'il va faire les beaux jours du FCMS dans un an, voire deux. Un joueur talentueux qu'il faut intégrer petit à petit. Et puis, naturellement, des joueurs comme Kouyaté et Ganagé vont prendre leur retraite.
Mmh. Donc le Sénégal sur une lancée, hein, puisque l'année prochaine, il y aura théoriquement l'été prochain, dans la chaleur torride du Maroc, il y aura une Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, de toute façon, là, il le disait, hein, les matchs éliminatoires vont commencer. Je vous propose maintenant qu'on évoque le Brésil. Le Brésil qui, lui, va aussi jouer des matchs amicaux. Le Brésil est double champion olympique, médaillé d'or à domicile avec Neymar au JO, on en parlait tout à l'heure, et aussi aux Jeux de Tokyo en 2021. Mais en Coupe du Monde, les Brésiliens ne sont plus très impressionnants. Ils n'ont pas disputé de finale depuis longtemps. Leur titre, le cinquième, c'était en 2002, et ni même atteint le dernier carré, sorti au Qatar, sorti en Russie. Et il faut donc revenir à un certain 7-1 pour se souvenir d'une demi-finale, et mieux vaut ne pas s'en souvenir. Le football brésilien s'en est-il remis d'ailleurs de cette demi-finale ? À écouter Lucas Paqueta, le milieu de terrain ancien lyonnais qui joue actuellement à West Ham, la sélection fait toujours peur.
L'équipe nationale brésilienne sera toujours favorite en raison de son histoire et de ses joueurs, quel que soit le moment. Dorival Junior ne s'est pas contenté de dresser une liste de 23 joueurs. Il a fait plusieurs observations. Et tout le monde fait partie du plan et de son processus. Je pense que face à l'Angleterre, ce sera un grand match. Ce sont deux belles équipes, nous devons les respecter. Mais nous rentrerons sur le terrain pour essayer de faire de notre mieux et pour qu'évidemment le Brésil gagne.
Il a raison en disant que l'histoire et les 5 étoiles sur le maillot qui éblouissent un peu font que le Brésil est toujours parmi les favoris.
Dans les discours, oui. Maintenant, dans la réalité du terrain, malheureusement, et depuis quelques années...
Oh là là, Euro se permet de jouer en plus. Non, mais... Il faut dire qu'une nation africaine a fait du mal au Brésil récemment, n'est-ce pas, le Maroc.
Le Maroc, effectivement. Le Sénégal aussi. Le Sénégal a battu le Brésil.
Ils les avaient battus.
Exactement. Mm-hmm. Mais c'est vrai que...
Euro n'a pas peur.
Non, mais cette sélection brésilienne, malheureusement, depuis quelques années, enfin, depuis la fin de la Coupe du Monde notamment, parce qu'il ne faut pas oublier tout le travail qu'avait fait Tite. On parlait de cette humiliation 7-1 en 2014, et le Brésil a eu du mal à se relever de cela. On a vu à Copa América 2015.
S'en est-il relevé ?
Il s'en est relevé grâce au travail de l'ancien sélectionneur Tite, qui avait permis de retrouver une certaine cohésion, une certaine cohérence, des joueurs impliqués, des joueurs qui ne cédaient pas à la pression. Puisque...
Et ce n'était pas un football folichon. Hein.
Non, mais c'était un football collectif et c'était un football qui nous permettait d'avoir certains espoirs. Notamment, on l'avait vu de la campagne éliminatoire de 2016 jusqu'à 2018. Le Brésil avait régné sur cette campagne éliminatoire. Certes, il y a eu l'élimination en quart de finale face à la Belgique, mais derrière, on avait vu une sélection qui s'était relevée avec la victoire en 2019 en Copa América, toujours sous les ordres de Tite. Et ce sélectionneur a su remettre une équipe au centre du jeu, c'est-à-dire vraiment avoir un état d'esprit de vainqueur, défensif certes, mais avec des fulgurances offensives, des joueurs comme Neymar qui pouvaient faire le spectacle, mais on pouvait parler d'une équipe qui avait retrouvé un état d'esprit, une âme. Et malheureusement, depuis son départ et cette élimination en Coupe du Monde 2022, on a vu un nouveau sélectionneur qui a été mis en place, qui n'a pas su, Fernando Diniz, qu'on a annoncé déjà comme dans un rôle intermittent.
Le faux recrutement d'Ancelotti.
Exactement.
Hein,
il y a eu, mais il y a eu énormément de problèmes de, au niveau de la CBF, que ce soit au niveau de la direction. On a nommé un sélectionneur par intérim parce qu'on attendait
confédération.
La Confédération. On attendait un sélectionneur. C'était vraiment hypothétique d'avoir Ancelotti. Finalement, il n'est pas venu. Donc, on a viré Fernando Diniz.
Enfin, eux ont voulu y croire.
Exactement.
Qui pouvait y croire.
Mais c'est pour ça qu'il y a eu un travail qui n'a pas été effectué. Que
il voudrait même Zidane, hein, dit-on.
Zidane, on parlait même de José Mourinho, José Mourinho était libre. Mais aujourd'hui, quand on regarde les techniciens brésiliens sur le marché, qui ont les épaules pour pouvoir porter cette équipe-là et remettre quelque chose en place, c'est très compliqué.
On va y venir sur ce Dorival Junior. Mais restons sur l'équipe. Elle va donc jouer contre l'Angleterre à Wembley. Est-ce que les Anglais sont impressionnés, ont peur, Bruno?
Honnêtement?
L'équipe de Southgate.
Vous voulez vraiment que je réponde à ça?
Oui.
Mais sûr que non. Enfin, le Brésil, non, mais qui? Enfin, le Brésil n'impressionne plus personne aujourd'hui. C'est plus le Brésil de Ronaldo, de Ronaldinho.
Vous exagérez peut-être un tout petit peu. Ils vont quand même en quart de finale.
Je suis désolé. On en parlait avant l'émission. Quand on regarde la liste, maintenant qu'il n'y a plus Neymar qui est blessé, en dehors de Vinicius Junior, honnêtement, il y a peu de joueurs qui font peur.
Bah, Lucas Paqueta, même... c'est quand même un bon joueur. Bah,
c'est un joueur qui joue à West Ham, qui est 8e de Première Ligue.
Oui,
vous avez Richarlison, qui est avec Tottenham, qui n'est pas toujours titulaire. Il y a plein de joueurs.
Douglas Luiz.
On a plus des joueurs. En fait, on a plus des joueurs cadres brésiliens.
Ederson dans les buts, quand même.
Non, mais on a plus des joueurs brésiliens qui jouent dans les grands clubs européens et qui sont les stars
blessé,
de ces clubs-là.
Alisson, Ederson sont blessés aussi.
Alisson, oui. En plus, il manque des cadres. Mais honnêtement, ça fait déjà quelques années que le Brésil ne fait plus peur. Le Brésil, il brille surtout par son nom, parce qu'on a un côté rêve du Brésil, de l'image qu'on a du Brésil, de cette équipe qui nous a toujours fait rêver avec ses grands joueurs. Mais à part Neymar et Vinicius qui arrivent maintenant, mais si Neymar n'est pas là, il manque quelque chose. Et d'ailleurs, c'est la vie. Là, on parle du Brésil, c'est surtout la vie sans Neymar, moi. Et quand Neymar va revenir dans cette équipe, soit il la transforme et il la porte quelque part, comme il l'avait porté pour moi à la Coupe du Monde 2014.
Bah, je souhaite voir dans quel état il est dans son équipe d'Arabie Saoudite.
Je pense que c'est dans sa tête d'aller faire la Coupe du Monde pour essayer de...
La Copa América, parce qu'il y a la Copa América. Il a déjà dit qu'il ne pourrait pas jouer.
Dans cette année, c'était
la Copa América cette année. En gros, il y en a une tous les ans.
Moi, je crois que Larry Bosman a tué certains grands clubs en Europe. Larry Bosman a tué le football brésilien, a tué la sélection. Parce qu'aujourd'hui, il quitte 16, 17 ans, 18 ans, alors qu'il y a 25, 30 ans, quand Raí venait au PSG, il avait tout gagné avec Sao Paulo. C'était des joueurs confirmés. Aujourd'hui, il quitte très tôt. On ne les connaît même pas. Peut-être
ils ont... C'est Beraldo au PSG?
Il a joué 23 matchs avec Sao Paulo avant.
Hiro, le Brésil, Ronaldo est parti très tôt du Brésil au PSG, ça n'a pas empêché, Ronaldinho pareil, ça n'a pas empêché de gagner la Coupe du Monde.
Mais ils avaient un beau championnat.
Ouais.
Oui, mais après c'était des talents différents.
Par exemple, Neymar était parti à seulement 21 ans même. Il avait été préservé, il était resté quand même dans ce berceau du football brésilien.
Je suis pas sûr que c'est un impact.
Est-ce que le style du football brésilien existe encore? C'était ça qui faisait peur aussi. Alors on parlait du football champagne pour la France, le football samba.
Il a disparu. Malheureusement, ça, c'est une réalité du football brésilien. Parce qu'on veut vendre ces joueurs le plus tôt possible.
C'est
donc,
ça.
On les formate au championnat européen, donc avec certains standards, beaucoup plus axés sur le physique que sur la technique, ce qui faisait la force du football brésilien. Il fallait des artistes. Il fallait des joueurs capables d'inventer
comme
des
Ronaldinho,
gestes. Comme Ronaldinho. Ronaldo, dans ses plus belles années, c'était pas que des accélérations, c'était aussi des gestes incroyables. Adriano, c'était la même chose. Et malheureusement, aujourd'hui, comme l'a dit Yoro, on vend des joueurs qui n'ont que 6 mois en professionnel et qui sont déjà formatés pour le football européen, mais on en perd la nature et l'essence même du football brésilien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette sélection-là, Bruno l'a dit, elle ne fait plus peur. Véritablement, en 2022, cette équipe-là était armée pour aller au bout. Malheureusement, elle est tombée face à la Croatie en tir au but, mais il y avait quelque chose qui se dégageait.
Quelle équipe dans le football mondial aujourd'hui a un jeu un peu football champagne ou très technique? Il y en a de moins en moins des football champagne, à part l'Espagne qui a toujours eu cette identité, et c'était le cas avec Luis Enrique, on va voir ce que ça va devenir. Mais en dehors de ça, on a des équipes qui sont extrêmement athlétiques.
Du Brésil.
On a des équipes extrêmement athlétiques. La France est une équipe très athlétique. C'est ce qui marche. Hein. L'Angleterre est une équipe extrêmement athlétique. C'est le football d'aujourd'hui qui a évolué. Et on en parlait notamment sur le niveau de la Ligue des Champions qui a baissé. C'est le football technique en fait qui a un peu disparu.
Regarde, parce
qu'on forme des joueurs en France ou ailleurs qui sont très athlétiques, qui vont très vite, qui sont très puissants.
Et l'Argentine qui gagne la Coupe du Monde, c'est pas un beau football.
Exactement.
Il y a Messi, l'artiste, mais autour, on a bâti une équipe de soldats pour aller au bout, et c'est ce qui a fonctionné.
Quels sont pour vous, alors, Dorival Junior, entraîneur du Brasileirão, c'est-à-dire du championnat brésilien, selon vous, quels sont les noms qu'on va pouvoir voir briller prochainement dans cette équipe du Brésil? Alors, Beraldo, lui, on ne peut pas dire qu'il va briller parce que c'est un défenseur, donc rêvons un peu, mais qui est-ce qui pourrait... Hendrix, là, dont Hendrix, on a parlé.
Oui. Hendrix, c'est un joueur de Palmeiras, effectivement, sur lequel on a énormément d'attentes, qui va arriver au Real Madrid cet été, parce qu'il aura 18 ans, mais c'est un joueur aussi qui est très jeune, et aujourd'hui, lui mettre cette responsabilité-là, ce poids de la sélection, parce qu'on ne parle pas de club, là on parle d'une sélection, du Brésil, donc toute l'importance, toute l'histoire qu'il y a derrière, ce n'est pas lui rendre service. Donc on peut espérer le voir faire quelques fulgurances, et ce serait très bien, mais aujourd'hui, cette équipe manque cruellement de leaders et de cadres. Un Casemiro qui est blessé, un Marquinhos qui est blessé, derrière, il n'y a pas une nouvelle génération capable d'assumer ce rôle-là, et c'est pour ça que c'est inquiétant. On l'a vu lors des éliminatoires, cette équipe brésilienne reste sur 3 défaites d'affilée. Elle est 5e de son groupe et on ne sait pas dans quelle direction elle va parce que le talent manque à cette formation. Et malheureusement, alors pour la prochaine Coupe du Monde, il y a 6 sélections qui sont qualifiées. Donc forcément, normalement, le Brésil devrait y être.
Mais ils sont 6e pour l'instant.
Exactement.
On peut toujours avoir des doutes. Et en plus, avec 3 défaites, alors que la dernière campagne de qualification pour le Qatar était d'une autre...
Exactement,
ils dominaient de la rage. Je crois qu'ils avaient fait que des victoires.
Que des victoires, ils dominaient, ils encaissaient très peu de buts. Et c'était un vrai collectif. Aujourd'hui, malheureusement, depuis le départ de Tite, on n'a pas su programmer et travailler cette succession-là. Et on le paye et on le voit avec les résultats, notamment dans les éliminatoires. Et ces deux matchs face à l'Espagne et à l'Angleterre, ce sera un test. Mais ce qui est malheureux, c'est que le niveau d'exigence qu'on pouvait avoir de cette sélection brésilienne, avec la réalité du terrain, on est obligé de la revoir à la baisse aujourd'hui.
Alors le problème, c'est aussi moral, je dirais, parce que non seulement les cadres de la sélection brésilienne, les dirigeants de la Confédération, il y a de gros doutes sur la capacité de ce président qui s'était par exemple entiché ou entêté autour de Ancelotti, mais il y a aussi des histoires avec les joueurs. Lucas Paqueta, il revient, mais pourquoi? Parce qu'il avait été pris dans des histoires de paris sportifs.
Il a privé de son transfert à Manchester City.
Lui et un autre joueur qui joue en Angleterre, Anthony,
c'est l'italien Tonali
à Newcastle. Ouais.
Mais Anthony aussi,
Anthony,
l'autre brésilien.
Des histoires extrasportives.
Anthony extrasportive, mais plutôt l'histoire de...
Ouais. Et puis alors, quand même, parlons-en, parce que c'était ces dernières heures, mais Dani Alves, qui était le capitaine de la sélection au JO en 2021, qui a donc été condamné à 4 ans et demi de prison pour viol, qui va être rejugé. Alors pour l'instant, même s'il est en liberté conditionnelle, il restera en Espagne là-bas, et il devra pointer. Et puis on a Robinho, qui lui avait été condamné en Italie, enfin qui avait fui l'Italie après des accusations, condamné à 9 ans de prison en son absence. Et hier, le tribunal le supérieur du Brésil a décidé qu'il devait accomplir ses 9 ans en prison et défendu des causes de justice défendues en plus par le président Lula. Il y a tout un ensemble qui sort du rail, Dominique, dans cette équipe.
Et malheureusement, ça ne date pas d'hier. On sait qu'au niveau de l'instance de la CBF, les anciens présidents ont tous été soit condamnés ou sont en cours de condamnation. Et là, le dernier président qui a été élu, il a été suspendu l'hiver dernier parce qu'il y avait encore un litige au niveau des votes. Là, il est revenu. Donc, c'est lui qui avait pris la décision d'attendre Ancelotti, qui n'est jamais venu, qui avait demandé à Fernando Diniz de faire l'intérim. Après les deux premiers matchs, on pensait peut-être que Fernando Diniz, avec son football,
l'entraîneur de
Fluminense, pouvait rester. Mais on l'a vu, ses résultats, ça n'a pas fonctionné. Là, on remet Dorival Junior. Donc déjà, à la tête de la sélection, malheureusement, et de la confédération, c'est le bazar. Il est évident que ça en découle sur le niveau général de l'équipe.
Un match contre l'Allemagne et un match contre l'Espagne, c'est peut-être fait pour essayer de voir à quel niveau on est, Euro. Ou alors ces invitations de matchs amicaux fonctionnent encore sur l'aura.
Sur le nom, c'est ça.
Bien sûr.
Pour remplir des stades ?
Oui,
pour avoir de l'argent.
Oui. Bon, on y revient, malheureusement. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci, messieurs, de ne pas avoir été optimistes sur le Brésil.
On l'est toujours, mais il y a la réalité.
On reparlera de football demain pour le Café des Sports et n'oubliez surtout pas d'envoyer vos cartons pour David Finzel qui les attend déjà. Merci à tous et à demain. Merci.